CQFD.
Les réseaux neuronaux numériques peuvent améliorer la qualité des images prises par télescope. Ça paraît assez curieux, dit comme ça, c'est une nouvelle qui émane de l'EPFZ. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler ce que sont ces réseaux de neurones artificiels, Sylvie Dolzan.
Alors on va commencer en faisant très simple, en résumant, en disant que ce sont des outils informatiques, des ensembles d'algorithmes qui sont conçus et agencés de façon à reproduire, tant que faire se peut, le fonctionnement des réseaux neuronaux naturels, donc ceux que nous avons dans notre cerveau. Alors leur efficacité, donc les résultats qu'ils obtiennent dépendent encore aujourd'hui quand même pas mal de ce qu'on leur demande de faire, même s'ils sont capables d'apprendre, comme on va le voir. Bref, c'est de l'informatique, la mathématique, des statistiques, des probabilités.
Et alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui, Sylvio ?
Et justement, vous l'avez évoqué, il y a quelques jours, la Royal Astronomical Society britannique nous apprenait que des chercheurs de l'EPFZ ont mis au point des réseaux neuronaux numériques capables de rendre nettes des photos floues prises par des télescopes. Alors ces réseaux neuronaux font apparaître des détails qu'on ne voit pas sur la photo originale à cause peut-être de la distance à laquelle se situait l'objet. C'est souvent une galaxie d'ailleurs qui était photographiée, à cause peut-être aussi d'un défaut. Donc on parle ici de photographie dans la lumière visible, principalement, et pas forcément d'autres longueurs d'onde avec les radiotélescopes.
Ok, alors nous allons en apprendre plus sur ces réseaux, leur fonctionnement et leur utilité, notamment avec le traitement d'images spatiales, grâce à nos deux invités. François Fleuret, bonjour. Vous êtes mathématicien, chef de groupe Vision et Apprentissage à l'Institut de Recherche IDIAP de Martigny, un institut affilié à l'EPFL. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche. C'est vous qui allez nous parler dans quelques minutes de ces réseaux neuronaux artificiels. Et puis bonjour également à vous, Thierry Courvoisier.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, professeur honoraire à l'Université de Genève, ancien président de l'Académie suisse des sciences. Nous allons débuter avec vous en nous parlant justement de ces télescopes optiques, en gros ceux qui font des photos, des images, comme qu'on peut voir avec nos yeux. Quand on parle de ces télescopes, on pense par exemple au télescope spatial Hubble et à son prochain successeur, mis en orbite l'an prochain, c'est James Webb, c'est juste. Tout d'abord, Thierry Courvoisier, comment ils fonctionnent, ces télescopes ?
Un télescope rassemble la lumière qui provient sur son miroir. Pour le télescope de Hubble, il fait 2,40 m de diamètre. Donc toute la lumière qui arrive sur le miroir est rassemblée. Le miroir est courbe et la lumière est concentrée en un point aussi petit que possible. Et puis c'est au fond là que vient toute l'astuce. Parce que plus le point sur lequel vous rassemblez la lumière à la fin du chemin optique est petit, plus vous allez arriver à distinguer deux objets proches l'un de l'autre. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Par exemple, si vous prenez deux lampes de poche, et puis vous vous éloignez de moi, je vais voir deux lampes de poche jusqu'à un certain temps. Et puis quand vous êtes trop loin, j'en verrai plus qu'une. Mais si je veux savoir combien de lumière vient d'une lampe de poche, je suis obligé de décomposer la lumière qui me provient en deux sources ponctuelles. Et c'est là qu'on essaye d'augmenter cette résolution angulaire un maximum. Parce qu'on a des étoiles qui sont proches les unes des autres. Pas forcément toujours très très loin. Hein. Quand c'est un amas d'étoiles denses, c'est même proche. Et quand c'est une galaxie, c'est un peu plus loin. Mais le but, c'est toujours d'arriver à distinguer deux objets.
À séparer les objets.
Les uns des autres et d'avoir les propriétés de l'un et les propriétés de l'autre. Puis alors ensuite, vous pouvez généraliser puis avoir la forme d'un objet, mais au fond, c'est toujours la même chose.
Puis là-dessus, donc, on met un appareil photo, quoi, bêtement.
Alors, vous utilisez le mot appareil photo,
c'est peut-être
pas terrible.
C'est pas terrible.
En fait, vous mettez derrière des détecteurs électroniques. Et vous avez donc les propriétés du chemin optique, de vos miroirs, du miroir principal, des autres miroirs, et puis ensuite les propriétés électroniques de votre détecteur. Et c'est cet ensemble de chaînes qui va définir les propriétés de votre télescope.
Mais c'est pas un peu comme un capteur d'appareil photo numérique, c'est-à-dire quelque chose qui doit avoir une résolution très fine et...
Si, c'est le même principe. Mais votre capteur sur votre téléphone, il a une lentille qui fait quoi, un demi-centimètre,
je sais pas quoi.
Quelque chose dans ce goût-là, un peu comme la lentille de notre œil, et il aura donc une résolution angulaire qui est limitée, la physique limite ça à quelque chose comme une minute d'arc, un 60e de degré ou un 30e de la taille de la Lune. Le télescope de Hubble, avec ses 2,40 m, il est 1000 fois plus grand, et ben il aura une résolution angulaire 1000 fois meilleure.
Ça vient notamment de la taille du miroir, qui est quand même la pièce maîtresse en fait d'un télescope, hein, on va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, ce miroir, bon d'abord, il doit être parfait. parfaitement lisse, etc. Il doit être positionné par rapport au reste de l'instrumentation de manière absolument parfaite. D'ailleurs, ça avait joué des tours au tout début de Hubble, à peine lancé, on s'est aperçu qu'il était totalement miro, quoi.
Oui, absolument. Il s'était planté dans la forme du miroir, mais il s'était planté d'une bricole, hein, de très très peu de choses. Mais ça suffisait pour dégrader la qualité optique de l'ensemble. Et ça a été corrigé en mettant un autre miroir dans le chemin optique qui lui corrigeait l'erreur qui avait été faite sur le miroir principal. Miroir principal, il a à vrai dire deux propriétés. L'une, c'est effectivement cette résolution qui est donnée par sa taille. Et l'autre, c'est la quantité de lumière qui vient. Parce que plus la pupille est grande, plus vous recevez de lumière de ça. C'est pour ça que vos yeux deviennent plus gros la nuit.
Alors, question peut-être un peu naïve, mais jusqu'à quelle distance et quel détail peut voir un télescope comme Hubble ?
Alors, Hubble voit 1000 fois mieux que votre œil, donc 1000 fois mieux en gros qu'une de ces minutes d'arc. La distance, c'est pas forcément la bonne question, parce que le plus loin que vous pouvez voir, vous le voyez avec des radiotélescopes quand vous observez le fond de ciel cosmique. Là, vous voyez de la lumière qui a été envoyée en 300 000 années après le Big Bang, donc à 13 et des poussières, milliards d'années-lumière. Alors qu'avec le télescope de Hubble, on va regarder des étoiles dans notre galaxie à des milliers d'années-lumière, mais pas à des milliards, donc 1 million de fois plus proche, ou dans des galaxies qui sont, elles, alors encore un bon bout plus loin, qui peuvent être à 1 milliard d'années-lumière, des choses comme ça. Mais par rapport à la question que vous posez sur la
distance,
la distance n'est pas vraiment la bonne réponse. À un caveat près, c'est que plus vous rassemblez la lumière sur un tout petit point, plus la sensibilité de votre instrument sera grande. Donc vous aurez une meilleure sensibilité, donc vous verrez la même étoile un peu plus loin. Mais là, on entre dans les effets un peu plus éloignés de votre question.
Et alors, qu'est-ce qui peut rendre un télescope, qu'est-ce qui peut altérer la qualité d'un télescope? On a parlé de ce problème de Hubble avec un petit calcul de travers.
Alors, absolument, il y a tous les éléments optiques que vous avez dans le jeu. Et pour les télescopes que vous avez sur Terre, vous avez l'atmosphère. L'atmosphère qui vacille un peu, il y a des fluctuations de densité qui changent le chemin optique de la lumière. Et ça va dégrader les propriétés de l'image que vous allez avoir.
C'est pour ça que les étoiles scintillent la nuit.
C'est pour ça que les étoiles scintillent la nuit et pas les planètes, parce que les planètes sont plus grandes que la taille de l'élément sur lequel l'atmosphère scintille.
Par contre, si on était à Califourchon sur Hubble, on ne les verrait pas scintiller.
On ne les verrait pas scintiller.
J'aimerais bien le voir à Califourchon sur Hubble.
En même temps, ce serait peut-être douloureux quand même.
C'est quelque chose qui fut remarqué par Hergé et que l'on voit dans On a marché sur la Lune.
Exactement.
Absolument. Mais c'est là que le travail dont on parle aujourd'hui devient intéressant, parce que, en fait, toutes ces propriétés optiques du chemin, elles sont décrites à la fin par une espèce de fonction qui donne ces propriétés. Et le but, c'est de connaître cette fonction le mieux possible. Et puis, à partir de cette connaissance, eh bien, on va arriver à retirer plus d'informations de l'image que simplement de la regarder.
Alors, juste peut-être un mot sur le successeur attendu de Hubble, de James Webb, très, très rapidement. Quelle va être la révolution technique?
Alors, il est plus gros. Il fait 6,50 m contre 2,40 m, donc 3 fois plus gros, ce qui veut dire 10 fois plus de collection de lumière. On parle aussi de résolution angulaire, donc 3 fois meilleure, mais comme il observe plus dans le rouge, on repère en longueur d'onde ce que l'on gagne en taille de miroir au niveau de la résolution. Donc là, c'est pas forcément là qu'on va gagner le plus, mais c'est vraiment la surface collectrice et le fait de pouvoir observer dans l'infrarouge. Et ça, c'est important parce que avec l'expansion de l'univers, la lumière qui est émise loin nous paraît toujours plus rouge. Donc au fond, la lumière visible, elle devient infrarouge. Et le James Webb télescope est particulièrement sensible dans ce domaine-là. Donc au fond, il est dessiné pour que le signal ou l'information qu'on a qui vient de plus loin que proche de nous arrive dans le domaine spectral dans lequel il est sensible.
Bastien, juste une question très pratique. Comment vous mettez un miroir de 6 mètres de diamètre dans les plus grosses fusées qui font 5 mètres de diamètre?
Alors vous le mettez en morceaux, vous le pliez et vous le dépliez.
Il faudra bien le déplier.
C'est un énorme projet. Ce sera tout à fait intéressant d'en discuter au moment où il arrive et de voir comment ça marche. Et on s'en réjouit beaucoup.
Toujours plus loin, toujours plus détaillé, même au-delà des capacités donc intrinsèques du télescope. C'est à quoi tant l'utilisation des réseaux neuronaux dont on va désormais parler. Alors venons-y avec vous, François Fleuret. Peut-être d'abord nous rappeler ou nous dire ce que c'est que ces réseaux neuronaux artificiels. C'est quoi? C'est des logiciels informatiques compliqués?
Alors en pratique, pour faire simple, c'est un programme informatique qui dépend de beaucoup de paramètres. Donc en fait, dès qu'on traite des données qui viennent du monde réel, et qu'on fait de l'informatique pour les traiter, on s'aperçoit qu'on a besoin de régler beaucoup de paramètres, donc des seuils, des si par exemple on a un capteur de température, on se dit j'ai envie de faire ça quand il fait ça, etc. Et là, on va dire une espèce d'attitude un peu paresseuse, c'est de se dire plutôt que de prendre plein de décisions et de réfléchir beaucoup, je vais mettre plus de paramètres, et puis en regardant des données, je vais essayer de trouver les paramètres qui font que mon programme marche. Et en fait, les réseaux de neurones sont un peu ça poussé à l'extrême, c'est-à-dire que là, on ne parle pas de 2, 3 ou 4 paramètres, on parle pour des réseaux de neurones modernes, donc c'est vraiment des programmes, ils ont des centaines de millions de paramètres. Donc ce qu'on a fait, on a défini un programme où on a des raisons intellectuelles de se dire, avec tous ces paramètres, il y aura une configuration de paramètres qui fera qu'il marche. Et après, maintenant, je vais regarder des données et chercher pour quelle valeur de mes paramètres mon programme fait bien ce qu'il est censé faire.
C'est-à-dire qu'on programme plus, on laisse tous ces paramètres interagir.
Et on laisse faire.
Oui.
C'est une grosse marmite.
Alors, présenté comme ça a l'air un peu brutal, mais malheureusement, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'expertise qui vient historiquement d'expériences de neurologie où on a vu comment faisait, par exemple, le cortex du chat, et ça a donné des indices sur le type de traitement qui marchait pour reconnaître des objets, pour détecter des objets. Mais après, on reste extrêmement vague. On se dit, je vais faire un programme qui est capable de faire ce type de traitement de manière très, très large. Et maintenant, je mets réellement 100 millions de paramètres. C'est-à-dire que ça a l'air d'être une blague.
Ça fait beaucoup.
On a l'impression que c'est hyperbolique, mais pas du tout. C'est-à-dire que les réseaux de neurones utilisés par Google, Facebook et autres pour faire de la reconnaissance d'objets ont réellement des centaines de millions de paramètres. Et après, on prend des centaines de millions d'images et on dit, voilà, sur cette image, il faut faire ça, sur cette image, il faut faire ça. Et on règle les paramètres de manière à ce que ça marche.
Alors, dans notre cerveau, il y a des neurones et des synapses qui sont les liaisons, en fait, entre les neurones. On peut faire un équivalent avec que seraient les neurones et que seraient les synapses dans un réseau de neurones artificiels?
Alors, c'est la comparaison avec la biologie est toujours un petit peu dangereuse parce qu'un objet biologique a énormément de paramètres dynamiques et autres. Donc, c'est difficile de savoir où est l'information dans une vraie synapse. Mais, clairement, historiquement et en pratique, un réseau de neurones est un agencement d'un très grand nombre de petites unités. Donc là, ça ressemble vraiment à un neurone biologique. Et de manière très concrète, chacune de ces unités reçoit des activations d'autres unités. Et de chacune de ces activations, elle en tient plus ou moins compte, de manière plus ou moins forte. Donc ça ressemble furieusement à des synapses, parce qu'une synapse, c'est effectivement, il y a un neurone a un signal qui circule, un autre neurone observe ce signal, et la synapse dit à quel point il faut en tenir compte.
C'est-à-dire qu'en fait, on reproduit, quoi. On reproduit,
c'est ça ma question, ouais. Ça a vraiment quelque chose à voir, ou finalement c'est une manière de parler?
Alors, à nouveau, il ne faut pas trop romantiser le sujet. Disons que historiquement, effectivement, l'inspiration était fortement biologique. On garde le vocabulaire qui est très biologique parce que ça aide à réfléchir, à travailler. Mais de fait, en pratique, de nos jours, sans vouloir devenir technique, mais on se retrouve avec des espèces de gros réseaux d'opérateurs qui travaillent sur des grosses matrices de chiffres. Si on regarde dans le détail, on peut continuer à appeler ça des neurones et des synapses, mais en pratique, c'est vraiment des grosses opérations algébriques qui sont faites sur des grosses matrices de chiffres. On parle plutôt de flots de tenseurs que de réseaux de neurones. Mais de fait,
exactement, mais de fait,
on peut, ça continue à être une vision adéquate de continuer à parler de neurones et on continue à parler de poids synaptique.
Mais quand vous parliez de centaines de millions de capteurs ou d'informations,
de paramètres,
notre cerveau finalement il fait ça, c'est-à-dire qu'il gère ces centaines de millions de paramètres.
Ah oui, alors là c'est complètement, c'est-à-dire que l'ordre de grandeur, donc. Un cerveau humain, je crois que c'est 10 puissance 15 connexions. Donc c'est des 10 millions de milliards de je me trompe pas, non, on s'embrouille toujours un peu.
Bon, beaucoup de chiffres, beaucoup de zéros.
On parle de milliers de milliards ou de centaines de milliards de neurones et de millions de milliards de connexions. Donc oui, a priori, ça, c'est à peu près validé que dans un cerveau biologique, il y a effectivement la règle de Hebb.
Notre cerveau, il est capable d'apprendre, mais oui. Les réseaux neuronaux numériques aussi.
Oui. Alors la manière qu'on a de les entraîner, parce que c'est comme ça qu'on dit, entraîner un réseau de neurones, est de fait extrêmement simple conceptuellement. C'est-à-dire ce qu'on fait, c'est que on prend ce qu'on appelle une base d'apprentissage. Donc l'exemple typique, c'est la reconnaissance d'objets. Donc on montre une image au réseau et on veut qu'en sortie, on a, mettons, 10 objets d'intérêt. On veut savoir si c'est un chat, un chien, un renard ou une belette. On va lui montrer, et au milieu, pour faire le passage de l'un à l'autre, on a ce truc, cette boîte noire avec plein de paramètres. Ce qu'on fait, c'est que, et réellement de manière concrète, ça a l'air simple de dire ça comme ça, mais c'est effectivement comme ça qu'on fait. On lui montre une image dont on connaît la réalité, donc on sait que c'est une loutre, et on lui dit, on fait passer cette image dans le réseau, donc il fait son calcul avec ses 100 millions de paramètres, et à la fin, il nous dit, bon, moi, je pense que c'est probablement un chien, peut-être un chat, enfin, il y a des scores. Et on lui dit, non, c'est une loutre, et on regarde, de manière très concrète, comment, si on change chaque paramètre, est-ce que ça augmente ou ça diminue loutre? Et si ça augmente, on pousse le paramètre de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation de l'erreur, et c'est vraiment aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on change petit à petit, vraiment de manière infinitésimale, chaque paramètre de manière à ce qu'on ait la bonne réponse sur chaque exemple. Pourquoi ces trucs-là marchent? C'est que, et qu'est-ce qui fait qu'il y a un peu une explosion en ce moment? C'est que, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, une espèce de coïncidence, il y a eu, à ce moment de l'histoire, il y a en même temps des ordinateurs extrêmement puissants pour faire ça, alors qu'ils ont été conçus pour autre chose, ils ont été faits pour faire des jeux vidéo, ce qu'on appelle les cartes graphiques. Il y a des acteurs économiques qui ont eu un gros intérêt à faire marcher ces trucs-là. Et il y a énormément de données, en particulier grâce à Internet, parce que il y a Mechanical Turk, les gens taguent des photos dans tous les sens. Et cette coïncidence d'intérêt économique, de matériel hardware qui est capable de le faire et de données fait que il y a eu un gain quantitatif. Je veux dire, aujourd'hui, une carte graphique que vous avez dans votre PC et qui coûte 300 francs est capable de faire on parle de milliers de milliards d'opérations par seconde. On est dans teraflop. Une carte de gamer que vous achetez au supermarché fait 1.2, 10.12 opérations flottantes, multiplication flottante par seconde. Donc pourquoi ça marche? Uniquement que cette règle très simple est appliquée de manière extrêmement brutale avec une énorme puissance de calcul.
Dans ce cas-là, les ingénieurs des PFZ ont utilisé la méthode dite du GAN, ça veut dire Generative Adversarial Network, une sorte de double apprentissage où on met deux réseaux en compétition. Ça semble être plus efficace, mais qu'est-ce que c'est ça?
Alors ça, c'est le sujet extrêmement chaud en ce moment, donc les GAN. Donc la manière traditionnelle, par exemple, d'attaquer exactement le problème de l'article, qui est... Donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des images nettes de galaxies.
Ah, donc on reprend nos télescopes juste pour...
Voilà, exactement.
On cherchait à éclaircir des images de télescopes au début de cette discussion. On y est.
Donc là, le problème, eux, qui est très simple, entre guillemets, parce que c'est pas si simple, c'est ils veulent donner une image floue au réseau de neurones et le réseau de neurones doit produire l'image nette correspondante. Donc, on fait l'hypothèse qu'on peut faire un réseau qui potentiellement peut le faire. Donc maintenant, il faut l'entraîner. Donc ce qu'ils font, ils prennent des milliers d'images nettes de galaxies. Ils les rendent floues artificiellement. Donc ça, on sait faire. Dégrader une image, on sait le faire. Et ils disent au réseau de neurones, bah voilà, quand je te montre cette image floue, il va falloir que tu me produises cette image nette. La manière historique de faire ça, ce qu'on appelle de la régression, c'est simplement de dire, bah, je veux qu'en sortie, les valeurs que tu me produises sont proches des valeurs que je voudrais, les vraies valeurs cibles. Après, je ne vais pas entrer dans les détails, mais cette stratégie
a... Un peu l'idée de la belette de tout à l'heure. On va dire c'est la belette.
Exactement, exactement. Mais historiquement, ce qu'on veut, c'est que l'erreur sur chaque pixel est faible. Et ça, c'est un très mauvais critère parce que, par exemple, imaginons, là, c'est un peu un cas construit, mais imaginons que par exemple, étant donné le signal d'entrée, donc l'image floue, on ne peut pas savoir si, mettons, une planète est légèrement décalée à droite ou légèrement décalée à gauche. Si on dit juste au réseau, il faut que tu refasses, que tu produises exactement cette image-là, lui n'a pas l'information pour le faire. C'est-à-dire qu'il reste, étant donné l'image qu'on lui donne en entrée, il reste une inconnue. Et si on veut juste lui dire, fais ce qui ressemble le mieux, à la fin, il produit encore une image floue.
Il y a un effet
mathématique bizarre, il va faire la moyenne de tout ce qu'il imagine être possible. Dans le cas des GAN, qui ont été développés pour des raisons plutôt de synthèse d'images, on construit, c'est très très rigolo, on construit un autre réseau qui lui doit nous prédire... Si une image est synthétique, a été produite par un réseau, ou si c'est une vraie image. Et les deux se battent. Donc le premier essaye de produire des images vraisemblables et le deuxième essaye de prédire si on a, il fait l'expert antifaussaire. Et il doit déterminer en regardant l'image si elle est, si elle est synthétique ou pas. Et après, on entraîne le premier en sachant les critères du deuxième et petit à petit, on arrive à d'excellentes images.
On les laisse toute la nuit se battre entre eux.
Ah, plutôt des jours, des semaines. Là, on parle même avec...
des super ordinateurs, même des semaines. Et, en fait, on les utilise déjà, ces réseaux neuronaux, maintenant. Dans quel domaine, par exemple?
Alors là, en ce moment, c'est partout, c'est-à-dire tout ce qui est reconnaissance de la parole, tous les téléphones portables, maintenant c'est des réseaux de neurones, la reconnaissance de visage, c'est des réseaux de neurones, la détection de personnes, c'est des réseaux de neurones, les voitures conduisent toutes seules, qui repèrent les piétons, les voitures, même les panneaux de signalisation. C'est-à-dire qu'il y a déjà des Tesla, par exemple, peut-être d'autres qui ont, à tout moment, il y a des caméras qui regardent les panneaux de signalisation et vous avez un retour dans votre voiture de la dernière fois que vous avez vu une limitation de vitesse.
Oui.
En fait, c'est omniprésent, c'est-à-dire que c'est en train de remplacer énormément de choses qui étaient faites par une connaissance experte. Quoi.
Mais c'est la prochaine révolution, ça.
Oui,
avec des conséquences qui pourraient être assez importantes sur toute la société, quand même.
Voilà, des turbulences, des turbulences économiques.
On en revient à nos télescopes. Alors ces images, on arrive à des beaux succès. Vous avez pu observer ça?
Alors là, on sort de mon champ d'expertise parce que
c'est pas vous qui avez fait ce.
Et d'une part, et en plus, je suis pas j'y connais pas énormément en astronomie et en optique.
Thierry Courvoisier est à côté de vous, donc
voilà, exactement. Mais donc le point, peut-être la faiblesse de l'approche qui est pointée par les auteurs eux-mêmes dans leur article, c'est que comme le réseau est entraîné sur une famille d'images, il va avoir énormément de mal à reconstruire quelque chose qui est très différent de ce qu'il a déjà vu. C'est-à-dire que le risque de ce genre d'approche, c'est que si on avait par exemple une nouvelle galaxie qui a vraiment une forme toute bizarre, alors elle est carrée, il n'y avait jamais eu de galaxie carrée, le réseau est incapable d'imaginer ça.
Il n'y croit pas.
Bah lui, en gros, son rôle, c'est plutôt, étant donné le signal bruité que j'ai, qu'est-ce qui ressemble le plus dans tout ce que j'ai vu et essayer de reconstruire selon ce guide-là.
Donc, c'est un
donc il risque de rater quelque chose de rare ou d'ajouter quelque chose qui n'existe pas, en fait.
Alors, peut-être un peu moins ajouté, mais en tout cas, il aura du mal à sortir de son périmètre de ce qu'il a vu à l'école, on va dire.
Thierry Courvoisier, pour terminer, vous pensez que ça pourrait être une réelle avancée dans le domaine de l'imagerie de l'espace?
Alors, moi, je suis certain qu'on va pouvoir apprendre beaucoup en gagnant de la résolution, en connaissant mieux ce genre de choses. Maintenant, cette technologie-là, de toute évidence, ça n'en est pas une qui va permettre des découvertes. C'en est une qui va permettre de faire des analyses de choses qu'on connaît mieux que ce qu'on pouvait faire. Mmh. Encore qu'il faut se méfier, parce que si on reprend notre image des deux lampes de poche de tout à l'heure, si votre algorithme, à la fin, quand les deux deviennent trop proches, met un peu plus de lumière dans l'une et un peu moins dans l'autre, eh ben, de nouveau, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, il faut se méfier de garder le flux, la quantité de photons qu'on reçoit de chacune des sources constante dans un jeu comme ça. Et ça, c'est quelque chose de, autant que je sache, très difficile. Maintenant que les nouvelles techniques de programmation nous permettent d'avancer dans ces problèmes qui sont vraiment effectivement difficiles, alors j'ai aucun doute.
Des réseaux de neurones artificiels pour voir plus loin, pour rendre nos télescopes soit plus fins, soit moins myopes, c'est selon d'où on se place. François Fleuret, mathématicien, chef du groupe Vision et Apprentissage à l'Institut de Recherche IDIAP à Martigny, et Thierry Courvoisier, astrophysicien, professeur honoraire à l'Université de Genève. Merci à tous les deux d'être venus ce matin, d'avoir accepté l'invitation de Sylvio Dolzan et donc d'être venu en direct à CQFD.
CQFD sur la première.